or no.
Say yes or no.
Yes or no.
La question du jour pour aujourd'hui était la suivante. Craignez-vous une nouvelle guerre entre l'Iran et Israël à court ou moyen terme? Oui ou non? Eh bien, c'est assez partagé. 54% de oui sur Facebook. L'inverse, 54% de non sur Insta. Et sur X, vous êtes 62% à penser que oui. Alors, Jonathan, ce matin, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir un éclairage forcément, on va demander son avis à Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, que je laisse en votre compagnie.
Raphaël Jérusalemi, bonjour, Boker Tov.
Boker Tov.
Alors, en ce moment, fusent les rumeurs et les fake news aussi sur une éventuelle reprise du conflit entre Israël et l'Iran. Le New York Times affirme dans un rapport qu'il s'agit d'une question de temps. Israël, du côté des services de renseignement, tempère. Où en est-on?
Alors, sur le plan de l'info, le New York Times rejoint le club BBC et CNN qui sont plus du tout fiables sur le plan de l'information. Ça fait déjà plusieurs fois que le New York Times gobe tout cru les informations qu'il reçoit du Hamas ou des gardiens de la Révolution. Sans les vérifier. Donc il ne faut certainement pas se fier à cet article-là, du New York Times, tout en considérant que effectivement, il y a une très très forte possibilité, à un moment donné à un autre, une reprise des combats entre l'Iran et Israël. Et la raison en est très simple, tant que il y aura le régime des Mollahs en place à Téhéran, et tant que les gardiens de la Révolution jouiront de la puissance démesurée économique, militaire, financière dont ils jouissent en Iran, il faudra redouter une menace sécuritaire contre Israël qui obligera donc tôt ou tard les Israéliens à réagir.
Alors, en cas de reprise du conflit, quelle forme pourrait-il prendre? Est-ce qu'on pourrait assister à des salves de missiles comme on l'a vu lors de la dernière guerre?
Alors exactement, du côté iranien, on prétend que l'uranium enrichi a été mis à l'abri avant l'attaque israélienne, qu'il serait planqué quelque part, qu'il y en aurait suffisamment pour faire une dizaine de bombes atomiques. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il y a au moins un an ou deux de retard dans ce programme nucléaire iranien, dans la mesure où beaucoup de centrifugeuses ont été détruites, même s'il resterait, apparemment d'après eux, une centrale nucléaire secrète qui fonctionnerait encore, et puis il leur manque la technologie nécessaire pour monter cette charge nucléaire sur un missile, sur une ogive ou une tête de missile. Donc ils ont quand même encore un ou deux ans d'avoir une véritable arme nucléaire efficace. Par contre, ils mettent l'accélérateur sur les missiles à longue portée capables d'atteindre Israël, dont ils prétendent qu'ils peuvent tirer bientôt des salves très fourni vers Israël. Alors, en regard de cela, il faut bien comprendre que pour un missile que les Iraniens vont tirer sur Israël, ils en recevront 100 de la part d'Israël. C'est-à-dire que la réponse, ça sera pas si suicidaire, mais pas loin de la part des Iraniens de s'en prendre à Israël, car la riposte israélienne qui est prévue est d'une immense violence. Et ça ne sera pas que des bases militaires et des bases de missiles, ça sera toute l'infrastructure du pays qui sera détruite, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, toute l'énergie qui est d'ailleurs utilisée aujourd'hui, qui est nécessaire au nucléaire iranien. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, près de Téhéran, il y a presque plus en réserve que quelques pourcents d'eau potable. Il y a pratiquement plus d'eau potable pour les habitants de Téhéran, alors qu'il y a des millions de mètres cubes d'eau qui sont gaspillés chaque année pour le refroidissement des centrifugeuses nucléaires. Et donc, ce sera un drame pour le pays, mais Israël est prêt à frapper, et à frapper très fort, et pourra le faire parce que la défense antiaérienne iranienne a été gravement touchée lors de la guerre des 12 jours, et parce que des corridors opérationnels dans le ciel iranien ont été créés qui permettront au aux avions de Tsahal de rentrer et de sortir rapidement. Certains, d'ailleurs, missiles de Tsahal, les avions israéliens n'ont même pas besoin de pénétrer dans le ciel iranien. Ils pourront tirer même à distance. Et donc, la frappe sera extrêmement sévère, même si la menace iranienne existe, et qu'il peut y avoir, comme on l'a vu durant la guerre des 12 jours, de graves dégâts causés à Israël par une éventuelle attaque iranienne.
Vous avez anticipé ma question sur l'avantage des airs gardés par Israël durant toute cette période. Elle est importante dans un futur éventuel conflit contre la République islamique. Il y a une autre information qui a été transmise par le site d'information Cannes en Israël. Selon des responsables israéliens, l'État hébreu se donnerait jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump pour faire tomber le régime iranien. Est-ce une ambition réaliste?
Alors, tous les chefs du Mossad sont d'accord pour dire que c'est beaucoup plus irréaliste de vouloir anéantir complètement la menace militaire iranienne et les gardiens de la révolution. C'est un petit peu comme l'histoire du Hamas ou du Hezbollah. Les anéantir complètement, c'est un boulot énorme. Là, on parle d'une force militaire énorme. Et donc, tous les chefs du Mossad, au fil des années, se sont accordés pour dire qu'il était moins utopique ou moins science-fiction, justement, d'envisager une chute du régime des Mollahs. Et de toute façon, comme je l'ai dit au début, sans cette chute du régime des Mollahs, la menace perdurera. La solution, la vraie solution, c'est le renversement du régime auquel travaillent les Israéliens avec les Américains, main dans la main, avec un soutien discret, secret, à l'opposition iranienne. La CIA, le Mossad soutiennent les mouvements d'opposition contre le régime des Mollahs. Il y a une immense opposition en Iran, des étudiants, des femmes, mais aussi des paysans et des ouvriers qui sont dans une pauvreté extrême. Il y a des oppositions ethniques, il y a des dissensions religieuses, il y a énormément d'endroits où puiser une force qui serait peut-être capable de se soulever contre la tyrannie des ayatollahs.
Raphaël, dernière question. Malgré la répression quand même du régime iranien contre les opposants, contre les soi-disant collaborateurs à Israël, une répression qui est tout de même sanglante contre l'opposition en Iran et contre la population.
Absolument. Et ça demande un courage énorme en Iran de s'opposer au régime. C'est extrêmement dangereux. Vous pouvez être arrêté n'importe quand, n'importe comment, être torturé et même exécuté sans un procès valable. Donc, c'est effectivement réprimer très violemment toute manifestation contre le régime. Mais il y a, et on l'a vu à plusieurs reprises, un ras-le-bol qui mène parfois à des émeutes, à des soulèvements. Les femmes ont plusieurs fois entamé, après l'assassinat de l'une d'elles, parce qu'elle portait son tchador de travers, il y a eu des émeutes et des soulèvements. Il y a eu des soulèvements et des grèves des ouvriers et des paysans iraniens qui ont vraiment du mal à survivre. Et donc, il y a un ras-le-bol général qui va quand même, peut-être à un moment donné, donner suffisamment de courage pour qu'il y ait ce soulèvement. Mais bien sûr, il y a le problème de la puissance de la police et de l'armée qui est au service des ayatollahs et qui peut matraquer tout ça. C'est une question de bras de fer maintenant entre le peuple iranien qui ne veut plus de ce régime, et c'est évident. Regardez, vous avez la même chose en Judée-Samarie où les Palestiniens ne veulent plus d'Abou Mazen et de l'OLP au pouvoir parce qu'ils sont corrompus et ne servent pas leurs intérêts et n'arrivent pas à s'en débarrasser non plus.
Raphaël Yerujanmi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Merci.